Eh bien, chers frères, je prêche actuellement une retraite pour des jeunes et je les confie à vos prières. C'est toujours très important, une retraite à cet âge-là, parce que cela oriente toute la vie. Ensuite, j'ai donné récemment un sermon sur l'Église. Et tous les assistants m'ont demandé de l'enregistrer, de le répandre, de le faire connaître, parce qu'ils l'avaient trouvé très intéressant et éclairant, surtout éclairant. Alors, c'est ce que je vais faire. Je vais à la fois leur donner satisfaction en enregistrant ce sermon, et puis vous-même, vous donner le fruit qu'ils ont apprécié. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, je vais vous parler de nouveau de l'Église parce que il y a deux raisons à cela. La première qui tient aux circonstances, l'Église semble bafouée et nous pourrions peut-être avoir une mauvaise idée, une mauvaise appréciation à son sujet. Et l'autre raison, beaucoup plus fondamentale, c'est que l'Église, c'est le lieu où nous sommes unis à Dieu. Je vous l'ai dit la dernière fois, je crois, l'Église, c'est la communion des saints, c'est ce qui nous unit, c'est l'ensemble des fidèles unis dans l'amitié divine. Alors, il est important de méditer sur ce sujet. Une des grandes hérésies a été l'hérésie nestorienne de Nestorius, qui était patriarche de Constantinople. Ce patriarche a osé proclamer, un jour de Noël, que la Très Sainte Vierge n'était pas mère de Dieu, elle était seulement mère de l'humanité de Jésus, mais l'humanité n'est pas la divinité, donc elle n'était pas mère de Dieu. À ce moment-là, un simple étudiant, pas un clerc, un simple étudiant, se lève et, devant toute l'assistance, proclame la foi en la maternité divine de la Sainte Vierge et reproche à Nestorius son hérésie. Vous imaginez, dans cette grande cathédrale, basilique Sainte-Sophie d'ailleurs, celle qui a été prise depuis par les Mahométans, cette grande cathédrale patriarcale, ce fut un tollé, la foule entière se joint à ce jeune qui a répondu au patriarche, et finalement, un concile sera convoqué, le patriarche sera condamné. Et le concile, Saint Cyril de Jérusalem, aura une grande importance dans ce concile, et donc Guéranger, lorsqu'il écrit la vie de Saint Cyril, raconte cet événement, qui est un événement majeur dans l'Église, d'une part, et puis évidemment dans la vie de Saint Cyril. Et il dit, je connais le texte par cœur, « Il est des vérités dont tout chrétien a la connaissance nécessaire et la garde obligée, du fait même de son titre de chrétien. » Et, je cite la suite de mémoire, « Lorsque ces vérités sont attaquées, point n'est besoin d'un ordre de la hiérarchie qu'il n'a pas à demander et pas même à attendre. Ou plutôt, pas à attendre et pas même à demander. Que cela veut-il dire? Cela veut dire que tout chrétien, du fait de son baptême, c'est-à-dire du fait qu'il est chrétien, a la connaissance nécessaire d'un certain nombre de vérités, qui sont les vérités de la foi, qui sont les vérités auxquelles nous tenons le plus. Et il en a donc la connaissance nécessaire. Bien sûr, il y a des vérités qui peuvent être plus difficiles à connaître, mais il y a des vérités essentielles. Et non seulement il en a la connaissance, mais il en a la garde. C'est-à-dire qu'il les protège, il les conserve. Et cette chose qui peut vous paraître surprenante, il n'est même pas nécessaire que l'initiative vienne de la hiérarchie pour protéger ces vérités lorsqu'elles sont attaquées. Vous vous rendez bien compte que nous sommes dans cette situation. Et je voudrais vous faire comprendre non seulement la nécessité de défendre les vérités attaquées, mais le fond même du motif pour lequel nous les défendons. Quand j'étais jeune, j'étais en terminale, je crois, puis je continuais encore dans mes premières années de faculté. Je prenais des cours de musique et j'avais un professeur qui était tout à fait exceptionnel, une femme. Exceptionnelle en musique d'une part parce qu'elle avait fait la Schola Cantorum de Bâle avec des maîtres éminents en musique ancienne et extraordinaire également par son amour des jeunes. J'avais cette chance extraordinaire d'avoir un professeur de haut niveau, une heure pour moi tout seul, chaque samedi. Alors après ça, après l'heure de catéchisme, après l'heure de musique, pardon, il y avait une discussion qui pouvait durer une heure parce que la pauvre était protestante charismatique. Alors je vous raconte pas ce que ça faisait. Et alors moi, je prenais ma bicyclette, je montais, parce qu'il faut monter là-haut. J'étais enthousiasmé par cette musique qu'elle me faisait découvrir. Et je prenais ma bicyclette, je me fatiguais un petit peu pendant un quart d'heure à pédaler. La descente allait tout seul, c'était très rapide la descente, mais la montée était plus pénible. Et alors ce professeur avait fondé, à la Maison des Jeunes de Rouen, un ensemble de musique ancienne, auquel elle m'avait invité à participer. C'était tout à fait extraordinaire, parce que la musique ancienne, contrairement à la musique moderne ou la musique symphonique, vous n'avez pas de chef, vous n'avez pas de chef d'orchestre. Et on s'écoute mutuellement. On participe mutuellement à une œuvre commune. Et alors elle me faisait la remarque: tu n'as pas fait attention à l'alto, tu n'as pas fait attention à la petite flûte qui avait le chant et toi tu l'as écrasé, ou au contraire tu ne l'as pas assez soutenu. Alors nous passions notre temps à nous écouter les uns les autres en jouant, c'est-à-dire plutôt à écouter la musique que nous faisions ensemble. Et cette passion, passion c'est beaucoup dire, faisait même qu'un ingénieur du groupe. Moi, j'étais presque le plus jeune du groupe. J'avais des vieux qui avaient bien 40 ans et j'en avais 17. Un ingénieur avait fait un clavecin, avait fabriqué complètement un clavecin. Ça avait un petit peu un son de boîte à punaise. Enfin, pour un clavecin, c'est pas trop grave. Et alors, mon professeur de musique m'avait fait savoir qu'il y avait une session, 8 petits jours, de une session de musique qui était à Dinan, je me rappelle, et elle m'avait invité à y participer. J'avais demandé à mes parents qui tout de suite m'avaient dit oui, bien entendu, et j'étais parti tout seul à l'aventure. J'avais beaucoup profité l'année suivante de nouveau, cette fois-ci c'était du côté de Nancy. Et nous avons même enregistré un disque. Non, non, rassurez-vous, je n'ai pas oublié mon sujet, je ne suis pas en train de vous raconter ma vie, je suis en train de vous parler de l'Église. Et nous avions même enregistré un disque, que j'ai toujours, bien sûr. Alors, vous voyez, nous avions une passion, appelons ça une passion si on veut, un intérêt, un idéal. Ça serait beaucoup plus juste de dire un idéal. Un idéal, un enthousiasme commun, qui était la musique, ancienne. Et cette musique était autant à moi qu'aux autres, autant à l'un qu'à l'autre. Cette musique n'était pas la musique de mon professeur. Le disque n'était pas le disque de mon professeur, même si le professeur avait un rôle stimulant, c'était notre ensemble qui jouait tous, nous jouions tous ensemble, et c'était notre musique commune. Et il est évident que s'il avait pris l'idée à l'un d'entre nous de jouer du tambour plutôt que de la musique ancienne, eh bien, il se serait mis complètement à part du groupe. Alors, c'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui, par exemple avec Mgr Felet. Il joue du tambour dans un ensemble de musique ancienne. Comment peut-on accepter, comment les bons prêtres, parce qu'il y en a, comment les bons prêtres peuvent-ils accepter de continuer à jouer de la flûte alors que d'autres jouent du tambour? Ça ne rime à rien, ça ne correspond à rien, ça ne peut mener à rien. C'est une lutte, c'est une division. Le seul moyen de ne pas trop se diviser, ben, c'est que soit le tambour, soit la flûte se taise. Comme le tambour a envahi l'ensemble, il n'était absolument pas invité, il a envahi cet ensemble de musique ancienne, et on l'a laissé envahir, et les joueurs de flûte ne sont pas partis avec leur flûte pour jouer tous ensemble ailleurs, alors ben, il ne reste plus qu'une solution, c'est que le joueur de flûte se taise, et puis c'est le tambour qui prend le dessus. Pour nous également, c'est important. La musique que nous jouons, c'est un peu la musique des anges. La musique que nous jouons dans l'Église, l'Église, c'est cet ensemble dans lequel nous jouons la musique de Dieu. Et parce que cette musique, c'est-à-dire la joie des vérités divines qui nous font connaître la beauté de Dieu, parce que cette musique est à nous tous, elle n'est pas plus au pape qu'à nous. Ça serait une erreur de croire qu'elle est au pape et puis que nous ne sommes rien que ceux auxquels le pape distribue les miettes. Elle est à nous. Cette musique ancienne était à moi, même si mon professeur de musique était plus doué que moi, bien sûr, bien plus avancé dans l'art musical, cette musique était mienne, parce qu'elle n'était pas, d'ailleurs, ni à moi ni à mon professeur. On avait demandé une fois, je me rappelle une interview de David Moroney, joueur de clavecin et jouant de l'orgue également, qui a enregistré l'intégrale de Couperin, de François Couperin. Et on lui demande quelle est sa manière de voir les choses, de voir la musique, et il répond « Oh, mais l'interprète, je n'ai plus toutes les paroles exactement en tête, mais le sens était celui-ci, « Oh, mais il ne faut pas que l'interprète se prenne pour le compositeur, il n'est que le serviteur de la musique. » Et il le disait de telle manière humble et convaincue que l'assistance a éclaté en applaudissements. Le pape, ce n'est pas sa musique. Le pape est le serviteur de Dieu qui est le compositeur. Et cette musique, Dieu nous l'a donnée à nous tous. Il nous a tous invités à jouer dans son ensemble. Il nous a tous invités à chanter avec les anges. Et c'est le drame d'aujourd'hui que le pape abuse de son autorité pour faire croire que cette musique n'est pas à nous et qu'il a le droit de la changer. Enfin, troisième point de ce sermon, cette musique est également celle des hommes qui s'en sont écartés, qui l'ont abandonnée, mais qui est quand même la leur. Évidemment, ma comparaison a ses limites, et je ne sais pas si on pourrait se donner beaucoup de mal pour aller rechercher un des membres d'un ensemble de musique qui serait parti, pris par autre chose. Encore que, il y a une amitié qui nous lie. Et en tout cas, il est certain que lorsqu'il s'agit de la musique des anges et de ce don que Dieu fait à tous les hommes, nous sommes préoccupés de voir que une des parties n'est plus tenue, parce qu'une des flûtes, la flûte, c'est celui qui joue de la flûte. Un de ceux qui joue de la flûte est parti et il nous manque quelque chose. Et celui qui joue de la viole de gambe n'est plus là, alors il nous manque quelque chose, ou claveciniste est parti. Alors, ce sont tous les chrétiens qui ont abandonné l'Église, qui sont tombés dans le péché, qui peut-être ont perdu la foi. C'est également les païens que Dieu a appelés à entrer dans son ensemble pour jouer la même musique avec les anges et qui ont refusé. Et il faut préciser également que ceux qui avaient été invités se sont défilés. L'un se mariait, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais c'est une mauvaise chose de faire passer le mariage avant l'appel de Dieu. Un autre avait acheté un champ, un autre une paire de bœufs. Et lorsque le maître du festin voit que la salle est vide, alors il envoie ses serviteurs et il leur dit « Allez par les chemins, allez au carrefour, allez même dans les haies et les fossés, et tout ce que vous trouverez, même de bancal, de boiteux, d'aveugles, amenez-les. » Alors c'est à nous que notre Seigneur dit cela. Et cela est tellement poignant pour le cœur de notre Seigneur qu'il a envoyé sa mère, Fatima, au Portugal, et elle a communiqué à ses enfants son souci maternel de ramener au bercail, de ramener à la salle du banquet, de ramener à la musique divine tous ceux qui s'en sont éloignés. Et alors, on voit cette joie du petit François, si heureux de vivre parce qu'il vivait pour Dieu, et pourtant faisant beaucoup de sacrifices, et de gros sacrifices, surtout pour un garçon de cet âge, qui vit dans une joie. Parce que, de même que j'avais plaisir à me donner du mal en prenant ma bicyclette pour rejoindre mon professeur, et la peine ne comptait pas, parce que vraiment c'était intéressant ce que nous jouions, et de même François, excusez-moi pour la comparaison, mais ça aide quand même à comprendre. De même, François avait de l'enthousiasme à se donner du mal pour ramener les pauvres pécheurs, comme disait la très Sainte Vierge. Alors, mes bien chers frères, demandez à la Sainte Vierge qu'elle vous donne cet enthousiasme, ce goût pour les choses de Dieu, qu'elle vous donne cette conviction que Dieu vous les a données à vous et que le pape est le serviteur de la musique, il n'en est pas le propriétaire. Que Monseigneur Felet est le serviteur de l'héritage et qu'il n'en est pas le propriétaire. Priez pour les prêtres de la Fraternité Saint-Pédis qui continuent à jouer de la flûte au milieu de ceux qui jouent du tambour. Que Dieu leur montre l'ineptie de leur attentisme, du fait qu'ils restent dans la Fraternité Saint-Pédis. Demandez à la Sainte Vierge qu'elle vous communique le cœur, l'idéal, l'enthousiasme des enfants de Fatima. Et qu'elle vous donne cette joie de ramener ceux qui se sont éloignés. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine, mes bien chers frères. Encore une fois, je recommande mes retraitants à vos prières et je vous assure des miennes, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.